Chapitre 7. La femme sur le pont. Ma mère parut à la porte de la bibliothèque et m'interrompit dans ma lecture. « Je viens d'accrocher un petit tableau dans ma chambre, » me dit-elle. « Montez-y avec moi, mon cher, et dites-moi ce que vous en pensez. » Je me levai et la suivis. Elle me montra un portrait en miniature, accroché au-dessus de la cheminée. « Savez-vous quel est ce portrait ?» me demanda-t-elle d'un air à la fois triste et enjoué. « Georges, vous reconnaissez-vous réellement, à l'âge de 13 ans ?»« Comment me serais-je reconnu ? Miné par la maladie et le chagrin, bruni par le soleil pendant mon long voyage pour revenir dans mon pays, mes cheveux déjà éclaircis au-dessus de mon front, mes yeux déjà habitués à le regard triste et fatigué, qu'avais-je de commun avec le joli petit garçon, potelé, frisé, à l'œil brillant, que m'offrait la miniature ? La seule vue de ce portrait produisit sur moi le plus étrange effet. Elle me remplit d'un désespoir trop terrible à supporter. Je quittai la chambre en m'excusant du mieux que je pus auprès de ma mère. Quelques minutes après, je sortais de la maison. Je traversai le parc et laissai derrière moi ma propriété. Je suivis un chemin de traverse et j'arrivai à notre rivière bien connue, si belle par elle-même et si fameuse parmi les pêcheurs de truites de toute l'Écosse. Ce n'était pas alors la saison de la pêche. Je n'aperçus aucun être humain en m'asseyant sur le bord. Le vieux pont de pierre qui traversait la rivière se trouvait à 100 pas de moi. Le soleil couchant teintait encore de ses rayons rouges mourants l'eau coulant doucement sous les arches. Le visage du petit garçon de la miniature me poursuivait encore. Le portrait semblait encore me dire d'un ton de reproche, dans son impitoyable langage particulier, « Voyez ce que vous étiez jadis, songez à ce que vous êtes aujourd'hui. » Je me cachai la figure dans l'odorant et doux gazon. Je songeais aux années de ma vie, gaspillées de 13 à 23 ans. Comment cela finirait-il ? Si je devais vivre jusqu'à l'âge ordinaire de l'homme, quel avenir avais-je devant moi ? L'amour, le mariage, j'éclatai de rire lorsque la pensée m'en traversa l'esprit. Depuis les jours heureux et innocents de mon enfance, je n'avais pas plus connu l'amour que l'insecte qui grimpait maintenant sur ma main posée sur le gazon. Mon argent m'achèterait certainement une femme, mais mon argent me la rendrait-il chère comme l'avait été Marie à l'époque dorée où avait été peint mon portrait ? Marie, vivait-elle encore ? Était-elle mariée ? La reconnaîtrais-je si je la voyais ? Quelle absurdité ! Je ne l'avais pas vue depuis l'âge de 10 ans et elle était maintenant une femme comme j'étais un homme. Me reconnaîtrait-elle si nous nous rencontrions ? Le portrait qui me poursuivait toujours me répondit « Voyez ce que vous étiez jadis, songez à ce que vous êtes aujourd'hui. » Je me levai et me promenai de long en large en essayant de détourner le cours de mes pensées. Je ne devais pas y réussir. Après des années de bannissement, Marie avait repris possession de mon esprit. Je m'assis de nouveau sur le bord de la rivière. Le soleil baissait rapidement. Des ombres noires se glissaient sous les arches du vieux pont de pierre. La lumière rougeâtre avait fui l'eau paisible et l'avait laissée couverte d'une teinte monotone, d'un gris d'acier. Les premières étoiles brillaient paisiblement dans le ciel sans nuages. Les premiers frémissements de la brise nocturne se faisaient entendre parmi les arbres et se montraient çà et là dans les endroits profonds de la rivière. Et plus l'obscurité augmentait, et plus mon portrait me ramenait résolument vers le passé, et plus l'image longtemps perdue de Marie enfant reparaissait vivante dans mes pensées. Était-ce le prélude de son retour dans mes rêves, sous les traits d'une femme accomplie et dans la fleur de son existence ? C'était possible. Je n'étais plus indigne d'elle comme je l'avais été autrefois. L'effet exercé sur moi par la vue de mon portrait était dû lui-même à l'amélioration morale et intellectuelle qui s'était constamment produite en moi depuis le jour où ma blessure m'avait laissé, impuissant, au milieu d'étrangers, sur une terre étrangère. La maladie, qui s'était montrée la conseillère et l'amie de bien des hommes, avait été pour moi une amie et une conseillère. J'envisageais avec horreur les vices de ma jeunesse et les années stériles où j'avais sacrilègement douté de tout ce qu'il y a de plus noble et de plus consolant dans l'humanité. Consacré par le chagrin, purifié par le repentir, m'était-il interdit d'espérer que son âme et la mienne puissent encore se réunir? Qui eût pu le dire? Je me levai de nouveau. Il ne pouvait me servir de rien de m'attarder jusqu'à la nuit sur les bords de la rivière. J'avais quitté la maison, sous l'impulsion qui nous entraîne, dans certains états d'excitation de l'esprit, à chercher un refuge dans la marche et le changement de lieu. Le remède n'avait pas réussi, mon esprit était aussi étrangement troublé que jamais. Ce que j'avais de mieux à faire, c'était de rentrer chez moi et de tenir compagnie à ma bonne mère, en lui servant de partenaire à sa partie de piquet favorite. Je me retournai pour reprendre la direction de la maison et je m'arrêtai, frappé par la tranquille et faible lumière qui brillait à l'occident, derrière la ligne noire formée par le parapet du pont. Dans le grand amoncellement des ombres de la nuit, dans le calme profond du déclin du jour, j'assistais seul à la chute de la lumière. La scène changea pendant que je la contemplais. Tout à coup et tout doucement, une figure vivante se dessina sur le pont. Elle passa derrière la ligne droite du parapet, à travers les longs et derniers rayons de lumière venant de l'occident. Elle traversa le pont. Elle s'arrêta et le retraversa à moitié. Puis elle s'arrêta. Les minutes s'écoulèrent et la figure demeura là, comme un objet noir et immobile, derrière le parapet noir du pont. Je m'avançai un peu, de manière à mieux distinguer le vêtement qui couvrait cette figure solitaire, et j'acquis ainsi la preuve que c'était une femme étrangère. Elle ne m'aperçut pas dans l'ombre que les arbres projetaient sur le bord. Les bras enveloppés dans son manteau, elle contemplait la sombre rivière. Qu'entendait-elle là, seule, à la fin de la soirée? Comme je m'adressais cette question, je la vis remuer la tête. Elle examina le pont dans sa longueur, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Attendait-elle quelqu'un qui devait venir la rejoindre, ou craignait-elle qu'on ne la remarquât, et désirait-elle s'assurer qu'elle était seule? Un doute soudain sur l'intention qui lui faisait rechercher ce lieu solitaire, une méfiance subite du pont isolé et de la rivière au cours paisible, me firent battre rapidement le cœur et me poussèrent à agir immédiatement. Je gravis à la hâte le terrain qui conduisait du bord de la rivière au pont, bien décidé à lui parler pendant que j'en avais encore la possibilité. Elle ne me vit ni m'entendit que lorsque je fus arrivé près d'elle. Je l'abordai dans un état d'agitation irréprimable et ne sachant guère comment elle me recevrait lorsque je lui parlerais. Dès qu'elle se fut retournée et que je la vis face à face, le calme me revint. Ce fut comme si, m'attendant à voir une étrangère, j'avais inopinément rencontré une amie. Et pourtant, c'était pour moi une étrangère. Jamais auparavant, je n'avais contemplé ce grave et noble visage, cette magnifique personne dont le long manteau ne pouvait cacher entièrement la grâce et la symétrie exquises. Ce n'était peut-être pas absolument une belle femme. Il y avait en elle certaines imperfections, assez accusées pour être visibles à la chute de la lumière. Par exemple, sous son grand chapeau de jardin, ses cheveux paraissaient presque aussi courts que ceux d'un homme et leur couleur avait cette triste teinte d'un brun mat si commune chez les Anglaises du type ordinaire. Et pourtant, malgré ses imperfections, il y avait dans son extérieur un charme latent et dans ses manières une fascination innée qui trouvèrent immédiatement le chemin de mes sympathies et s'imposèrent à mon admiration. Elle me captiva dès l'instant où je l'envisageais pour la première fois. Puis-je vous demander si vous avez perdu votre chemin, lui dis-je. Ses regards s'arrêtèrent sur mon visage avec une étrange expression de curiosité. Elle ne paraissait ni surprise ni confuse de ma hardiesse à l'accoster. « Je connais parfaitement cette partie du pays, continuai-je. Puis-je vous être bon à quelque chose ?» Elle continua à me regarder d'un œil fixe et investigateur. Bien qu'un étranger pour elle, mon visage parut, un instant, la troubler, comme si elle l'avait déjà vu et oublié. Si cette pensée lui revint réellement, elle la chassa de suite avec un petit hochement de tête et se mit à regarder au loin la rivière, comme si je lui étais devenu indifférent. « Merci, je n'ai pas perdu mon chemin. Je suis habituée à me promener seule. Bonsoir. » Elle parlait froidement mais poliment. Sa voix était délicieuse et son salut, en me quittant, fut d'une grâce et d'une simplicité parfaites. Elle quitta le pont du côté par lequel je l'avais vu d'abord en approcher et s'éloigna lentement par la sombre voie de la grande route. Cependant, je n'étais pas parfaitement rassurée. Il y avait, sous le charme de son extérieur et la fascination de ses manières, quelque chose que je sentais instinctivement n'être pas naturel. En me dirigeant vers le bout opposé du pont, je commençais à douter qu'elle m'eût dit vrai. En s'éloignant de la rivière, avait-elle voulu simplement se débarrasser de moi? Je résolus d'éclaircir mes soupçons. En quittant le pont, je n'avais qu'à traverser la route pour entrer dans une plantation sur le bord de la rivière. Abritée là, derrière le premier arbre assez gros pour me cacher, je pouvais commander l'aspect du pont et comptais sûrement la surprendre tant qu'il resterait un rayon de lumière pour la distinguer si elle revenait vers la rivière. Il n'était point facile de marcher dans l'obscurité de la plantation et il me fallut trouver mon chemin presque à tâtons jusqu'à l'arbre le plus proche, favorable à mon but. Je venais à peine d'assurer ma position sur le terrain inégal, derrière l'arbre, lorsque le son lointain d'une voix vint rompre subitement le silence de l'heure du crépuscule. C'était une voix de femme. Elle ne monta pas bien haut, elle avait l'accent d'une prière, et voici les paroles qu'elle prononça. « Christ, ayez pitié de moi !» Il y eut un nouveau silence. Une frayeur indicible s'empara de moi pendant que je regardais le pont. Elle était debout sur le parapet. Avant que j'eusse pu faire un mouvement, pousser un cri ou même reprendre haleine, elle se jeta dans la rivière. Le courant coulait de mon côté. Je pus la voir lorsqu'elle reparut à la surface, flottant à la lumière au milieu de la rivière. Je me précipitai à corps perdu sur le bord. Elle disparut de nouveau au moment où je m'arrêtai pour jeter bas mon chapeau et mon habit et me débarrasser de mes souliers. J'étais un nageur consommé. À peine dans l'eau, le calme me revint, je me retrouvai. Le courant m'emporta au milieu de la rivière et augmenta considérablement la rapidité avec laquelle je nageais. Je me trouvai derrière l'inconnu lorsqu'elle reparut pour la seconde fois, comme une ombre à peine visible, à quelques pouces de la surface de la rivière. Un mouvement de plus et je l'entourai de mon bras gauche et je lui tins le visage hors de l'eau. Elle avait perdu le sentiment. Je pus la soutenir de manière à rester maître de tous mes mouvements. Je pus me vouer, sans émoi ni fatigue, à la tâche de la ramener sur le rivage. Ma première tentative me prouva qu'il n'y avait raisonnablement pas à espérer, chargé comme je l'étais, de maîtriser le courant rapide établi entre chaque bord et le milieu de la rivière. J'essayai d'un côté, puis de l'autre, et j'y renonçai. Il ne me restait d'autre ressource que de me laisser entraîner avec l'inconnu par le courant. À 50 pas plus bas, la rivière tournait autour d'une pointe de terre sur laquelle se trouvait une petite auberge très fréquentée dans la saison par les pêcheurs à la ligne. Lorsque nous en approchâmes, je fis un nouvel effort, également inutile, pour atteindre le bord. Ma dernière chance était celle d'être entendu par les gens de l'auberge. Je poussai donc un cri désespéré en passant devant. On y répondit et un homme se dirigea vers nous dans un canot. 5 minutes plus tard, je déposai l'inconnu sur la rive et l'homme et moi, nous la portions à l'auberge sur le bord de la rivière. L'aubergiste et sa servante étaient également disposés à se rendre utiles et également ignorantes de ce qu'il y avait à faire. Heureusement, mon expérience médicale me mettait à même de les diriger. On mit à ma disposition un bon feu, des couvertures chaudes et des bouteilles d'eau bouillante. Je montrai moi-même aux deux femmes à appliquer les moyens de ramener l'inconnu à la vie. Elles persévérèrent et je persévérai. Mais l'inconnu demeurait là, étendu, dans sa beauté accomplie, sans donner signe de vie et, selon toute apparence, morte par suffocation. Un dernier espoir me restait, celui de la faire revenir par le procédé de la respiration artificielle, si j'avais le temps de fabriquer l'appareil nécessaire. Je venais d'expliquer à l'aubergiste ce dont j'avais besoin et j'éprouvais une étrange difficulté à m'exprimer lorsque la brave femme se recula et me regarda en poussant un cri de terreur. « Grand Dieu, monsieur, vous êtes tout sanglant !» s'écria-t-elle. « Qu'avez-vous? Êtes-vous blessé ?» À l'instant même où elle me parlait, je devinais ce qui en était. Mon ancienne blessure indienne, irritée par les violents efforts auxquels je m'étais livré, s'était rouverte. Je luttais contre le sentiment de défaillance qui s'empara de moi subitement. J'essayai d'expliquer aux gens de l'auberge ce qu'il y avait à faire. Ce fut en vain. Je tombai sur mes genoux et ma tête s'affaissa sur le sein de la femme, étendue sans connaissance sur la couche placée par terre près de moi. La mort apparente qui l'avait saisie m'avait saisie moi-même. Perdue pour le monde environnant et mon sang coulant sur elle, nous gisions, réunis dans une extase voisine de la mort. Où étaient alors nos âmes? Se trouvaient-elles ensemble et avaient-elles conscience l'une de l'autre? Unies par un lien spirituel qui, dans la vie terrestre, échappait à nos sens et à notre entendement, nous étions-nous reconnus dans cette extase, nous qui nous étions rencontrés sur le pont fatal comme des étrangers? Vous qui avez aimé et perdu l'objet de votre amour, vous qui n'avez trouvé de consolation que dans la croyance à un autre monde, tournerez-vous en ridicule mes questions? Affirmerez-vous loyalement que vous ne vous les êtes jamais adressées ?